Roland Barthes.
En ce qui concerne ce livre des fragments d'un discours amoureux, ce que j'ai voulu, à tort ou à raison, mais c'était, disons, un propos, je dirais presque entêté chez moi, je n'ai pas voulu, à aucun moment et à aucun prix, construire ce que j'appellerais une histoire d'amour.
Ça peut pas faire de mal.
Parce que ce que j'ai voulu restituer, ou simuler, car c'est un livre de simulation, c'est un livre qui simule un discours, j'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui passe dans la tête d'un sujet amoureux.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Je vais plus te parler de ta beauté. Je vais même te dire que t'es moche si tu veux. J'essaie de te décrire comme si tu étais une photo ou une peinture. Tais-toi. Ton visage est un paysage. Tu vois, je suis neutre et impartial. Et les deux yeux, deux petits lacs marrons.
La nécessité de ce livre tient dans la considération suivante, que le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude. Ce discours peut être parlé par des milliers de sujets qu'il sait, mais il n'est soutenu par personne. Il est complètement abandonné des langages environnants, ou ignoré, ou déprécié, ou moqué par eux, coupé non seulement du pouvoir, mais aussi de ces mécanismes que sont les sciences, les savoirs, les arts. Lorsqu'un discours est de la sorte entraîné par sa propre force dans la dérive de l'inactuel, déporté hors de toute grégarité, il ne lui reste plus qu'à être le lieu, si exigu soit-il, d'une affirmation. Cette affirmation est en somme le sujet du livre qui commence.
Ton front, c'est une plaine. Ton nez, petite montagne. Ta bouche, un volcan.
Tout est parti de ce principe, qu'il ne fallait pas réduire l'amoureux à un simple sujet symptomal, mais plutôt faire entendre ce qu'il y a dans sa voix d'inactuel, c'est-à-dire d'intraitable. De là le choix d'une méthode dramatique qui renonce aux exemples et repose sur la seule action d'un langage premier. On a donc substitué à la description du discours amoureux sa simulation et l'on a rendu à ce discours sa personne fondamentale, qui est le « je », de façon à mettre en scène une énonciation, non une analyse. C'est un portrait, si l'on veut, qui est proposé, mais ce portrait n'est pas psychologique. Il est structural. Il donne à lire une place de parole, la place de quelqu'un qui parle en lui-même, amoureusement, face à l'autre, l'objet aimé, qui ne parle pas.
Si j'étais aveugle, je passerais mon temps à caresser ton visage. Et si j'étais sourd, j'apprendrais à lire sur tes lèvres avec mes doigts, comme ça.
Ainsi s'ouvre le célèbre essai de l'écrivain et philosophe Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux, publié en 1977. Né en 1915 et mort accidentellement en 1980, l'auteur compte parmi les grandes figures de la pensée structuraliste en France qui, aux côtés de Jacques Derrida et Gilles Deleuze, se propose de penser l'homme à partir des structures du langage. Pour Roland Barthes, l'activité structuraliste consiste précisément à découper et agencer des fragments de sens afin d'explorer l'imaginaire et le rendre intelligible. Ce soir, suivons cette méthode de composition qui s'apparente à celle du collage chez les surréalistes et par laquelle Roland Barthes explore les méandres du discours amoureux. Loin du monstre que représenterait une philosophie de l'amour, l'écrivain livre au contraire une analyse très personnelle du sentiment à travers une lecture assidue des souffrances du jeune Werther de Goethe. Découvrons donc ce soir, non pas le théoricien de la nouvelle critique, mais un Roland Barthes plus intime. Et feuilletons cet abécédaire amoureux qu'il propose à ses lecteurs en compagnie de ma reine de théâtre, Claude Mathieu. Merci Claude d'être avec nous ce soir.
Commençons par la lettre A comme amour.
Roland Barthes y décrit les expériences de l'abîme, de l'absence, de l'adoration et de l'attente. Comme autant de variations du sentiment amoureux, qu'il soit amour de l'autre ou amour maternel.
S'abîmer, bouffer d'anéantissement qui vient au sujet amoureux par désespoir ou par comblement. Soit blessure, soit bonheur, il me prend parfois l'envie de m'abîmer. Ce matin, la campagne, il fait gris et doux. Je souffre de je ne sais quel incident. Une idée de suicide se présente. Pure de tout ressentiment, aucun chantage à personne. C'est une idée fade. Elle s'accorde à la couleur, au silence, à l'abandon de cette matinée. La bouffée d'abîme peut venir d'une blessure, mais aussi d'une fusion. Nous mourrons ensemble de nous aimer, mort ouverte par dilution dans l'éther, mort close du tombeau commun. L'abîme est un moment d'hypnose. Une suggestion agit, qui me commande de m'évanouir sans me tuer. De là peut-être la douceur de l'abîme. Je n'y ai aucune responsabilité, l'acte de mourir ne m'incombe pas. Je me confie, je me transfère. À qui ? À Dieu, à la nature, à tout, sauf à l'autre. Lorsqu'ainsi il m'arrive de m'abîmer, c'est qu'il n'y a plus de place pour moi nulle part, même pas dans la mort. L'image de l'autre à qui je collais, de quoi je vivais, n'est plus. Tantôt c'est une catastrophe, fut-il, qui semble l'éloigner à jamais, tantôt c'est un bonheur excessif qui me l'a fait rejoindre. De toute manière, séparé ou dissous, je me suis recueilli nulle part. En face, ni moi, ni toi, ni mort, plus rien à qui parler. L'abîme n'est-il qu'un anéantissement opportun ? Il ne me serait pas difficile de lire en lui, non un repos, mais une émotion. Je masque mon deuil sous une fuite. Je me dilue. Je m'évanouis pour échapper à cette compacité, à cet engorgement qui fait de moi un sujet responsable. Je sors. C'est l'extase.
Absence. Tout épisode de langage qui met en scène l'absence de l'objet aimé, quelle qu'en soit la cause et la durée, et tend à transformer cette absence en épreuve d'abandon. Il n'y a d'absence que de l'autre. C'est l'autre qui part, c'est moi qui reste. L'autre est en état de perpétuel départ, de voyage. Il est par vocation migrateur, fuyant. Je suis moi qui aime, par vocation inverse, sédentaire, immobile, à disposition, en attente, tassé sur place, en souffrance, comme un paquet dans un coin perdu de gare. L'absence amoureuse va seulement dans un sens et ne peut se dire qu'à partir de qui reste et non de qui part. Je, toujours présent, ne se constitue qu'en face de toi, sans cesse absent. Quelquefois, il m'arrive de bien supporter l'absence. J'obéis au dressage par lequel on m'a donné très tôt l'habitude d'être séparé de ma mère. Ce qui ne laissa pas pourtant, à l'origine, d'être douloureux, pour ne pas dire affolant. J'agis en sujet bien sevré. Cette absence, bien supportée, elle n'est rien d'autre que l'oubli. Je suis, par intermittence, infidèle. C'est la condition de ma survie, car si je n'oubliais pas, je mourrais. L'amoureux qui n'oublie pas quelquefois meurt par excès, fatigue et tension de mémoire, tel Werther. De cet oubli, très vite, je me réveille. Hâtivement, je mets en place une mémoire, un désarroi. Un mot classique vient du corps, qui dit l'émotion de l'absence, soupirer. Les deux moitiés de l'androgyne soupirent l'une après l'autre, comme si chaque souffle incomplet voulait se mêler à l'autre. Image de l'embrassement, en tant qu'ils font les deux images en une seule. Dans l'absence amoureuse, je suis tristement une image décollée qui sèche, jaunit, se recroqueville. Le discours de l'absence est un texte à deux idéogrammes. Il y a les bras levés du désir et il y a les bras tendus du besoin. J'oscille, je vacille entre l'image phallique des bras levés et l'image pouponnière des bras tendus.
Adorable. Ne parvenant pas à nommer la spécialité de son désir pour l'être aimé, le sujet amoureux aboutit à ce mot un peu bête, adorable. Par une logique singulière, le sujet amoureux perçoit l'autre comme un tout, comme le Paris automnal au pied de Rastignac. Et en même temps, ce tout lui paraît comporter un reste qu'il ne peut dire. C'est tout l'autre qui produit en lui une vision esthétique. Il le loue d'être parfait. Il se glorifie de l'avoir choisi parfait. Il imagine que l'autre veut être aimé comme lui-même voudrait l'être. Non pour telle ou telle de ses qualités, mais pour tout. Et ce tout, il le lui accorde, sous la forme d'un mot vide, car tout ne pourrait s'inventorier sans se diminuer, dans ce mot adorable. Aucune qualité ne vient se loger, mais seulement le tout de l'affect. Cependant, en même temps qu'adorable dit tout, il dit aussi ce qui manque au tout. Il veut désigner ce lieu de l'autre où vient s'accrocher spécialement mon désir, mais ce lieu n'est pas désignable. De lui, je ne serai jamais rien. Mon langage tâtonnera, béguera toujours pour essayer de le dire, mais je ne pourrai jamais produire qu'un mot vide. C'est là une grande énigme dont je ne saurai jamais la clé. Pourquoi est-ce que je désire telle personne? Pourquoi est-ce que je la désire durablement, langoureusement? Est-ce tout en elle que je désire? Une silhouette, une forme, un air? Ou n'est-ce seulement qu'un morceau de ce corps? Et dans ce cas, qu'est-ce qui, dans ce corps aimé, a vocation de fétiche pour moi? La coupe d'un ongle, une dent un peu cassée, une mèche, une façon d'écarter les doigts en parlant, en fumant. De tous ces plis du corps, j'ai envie de dire qu'ils sont adorables. Adorable veut dire « ceci est mon désir en tant qu'il est unique ». C'est ça, c'est exactement ça que j'aime.
Comment la déréalité est-elle liée à l'amour? Est-ce que c'est l'amour qui nous donne ce sentiment?
Oui. Roland Barthes.
Le sujet amoureux, par l'investissement amoureux, il investit tellement dans l'objet aimé qu'il désinvestit à proportion du monde. Et le monde lui paraît complètement déréel, privé de toute réalité.
Ce sont des variations sur un seul être vous manque.
Oui, exactement. Tous ces sentiments ont été décrits abondamment par la littérature. Oui, d'autant que le sujet amoureux dont je parle est tout de même, en gros, un sujet amoureux romantique.
Disons, c'est ça.
Si on voulait le classer dans l'histoire.
Belle, il ne faut pas me regarder dans les yeux.
Affirmation.
Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais. Sauf chaque soir à 7 heures.
Envers et contre tout, le sujet affirme l'amour comme valeur. En dépit des difficultés de mon histoire, en dépit des malaises, des doutes, des désespoirs, en dépit des envies d'en sortir, je n'arrête pas d'affirmer en moi-même l'amour comme une valeur. Cet entêtement, c'est la protestation d'amour, c'est la voix de l'intraitable amoureux. Il y a deux affirmations de l'amour. Tout d'abord, lorsque l'amoureux rencontre l'autre, il y a affirmation immédiate. Psychologiquement, éblouissement, enthousiasme, exaltation, projection folle d'un avenir comblé. Je suis dévoré par le désir, l'impulsion d'être heureux. Je dis oui à tout en m'aveuglant. Suis un long tunnel. Mon premier oui est rongé de doute. La valeur amoureuse est sans cesse menacée de dépréciation. C'est le moment de la passion triste, la montée du ressentiment. De ce tunnel, cependant, je peux sortir. Ce que j'ai affirmé une première fois, je peux de nouveau l'affirmer, sans le répéter, car alors ce que j'affirme, c'est la première rencontre. Je veux son retour, non sa répétition. Je dis à l'autre, ancien ou nouveau, recommençons.
Il ne faut pas me regarder dans les yeux.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Si oui, tu dois faire tout et tout pour moi. Si oui, tu dois faire tout et tout pour moi. On va de l'avant ou on n'y va pas. On prend les devants ou on ne les prend pas. Si d'aventure tu te joues de moi, change les serrures. Séjour dans tes bras, que tes caresses ne s'arrêtent pas. Je voudrais compter les jours sur tes doigts. Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas.
tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menus retards. Rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Chez Schoenberg, une femme attend son amant la nuit, dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone. Mais c'est la même angoisse. Tout est solennel. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule, je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, mesurable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse de l'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par ses supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu, que faire ? Angoisse de conduite. Changer de café ? Téléphoner ? Mais si l'autre arrive pendant ses absences ? L'acte 2 est celui de la colère. Ah, si elle, il, pouvait être là, pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là. Dans l'acte 3, j'atteins l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort. Explosion de deuil, je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive à l'acte 1, l'accueil est calme. S'il arrive à l'acte 2, il y a une scène. S'il arrive à l'acte 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire, tel Péléas sortant du souterrain et retrouvant la vie. Parfois, l'attente est un enchantement. J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. L'attente d'un coup de téléphone se tisse ainsi d'interdictions menues à l'infini, jusqu'à l'inavouable. Je m'empêche de sortir de la pièce, d'aller aux toilettes, de téléphoner même, pour ne pas occuper l'appareil. Je souffre de ce qu'on me téléphone, pour la même raison. Je m'affole de penser qu'à telle heure proche, il faudra que je sorte, risquant ainsi de manquer l'appel espéré. Toutes ces diversions qui me sollicitent sont des impuretés d'angoisse, car l'angoisse d'attendre dans sa pureté veut que je sois assis dans un fauteuil, à portée de téléphone, sans rien faire. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, l'autre vient où je l'attends, là où je l'ai déjà créé. Et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente est un délire. Encore le téléphone. À chaque sonnerie, je décroche en hâte. Je crois que c'est l'être aimé. Un effort de plus. Je reconnais sa voix. J'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'importun qui me réveille de mon délire. Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée. Freud, paraît-il, n'aimait pas le téléphone. Lui qui aimait cependant, écoutez, peut-être sentait-il, prévoyait-il que le téléphone est toujours une cacophonie et que ce qu'il laisse passer, c'est la mauvaise voix, la fausse communication. Par le téléphone, sans doute, j'essaie de nier la séparation. Comme l'enfant redoutant de perdre sa mère joue à manipuler sans relâche une ficelle. Mais le fil du téléphone n'est pas un bon objet transitionnel. Il est chargé de sens qui n'est pas celui de la jonction, mais celui de la distance, voix aimée, fatiguée, angoissante, entendue au téléphone. Tout d'abord, cette voix, quand elle me vient, quand elle est là, je ne la reconnais jamais tout à fait. On dirait qu'elle sort de dessous un masque. Ainsi, dit-on, les masques de la tragédie grecque avaient une fonction magique, déformer la voix, la dépayser, la faire venir de l'au-delà souterrain. Et puis au téléphone, l'autre est toujours en instance de départ. Il s'en va deux fois, par sa voix et par son silence. À qui est-ce de parler ? Nous nous taisons ensemble, encombrement de deux vides. je vais te quitter », dit à chaque seconde la voix du téléphone. Ce qui fait la voix, c'est ce qui en elle me déchire à force de devoir mourir. Comme si elle était tout de suite et ne pouvait être jamais rien d'autre qu'un souvenir.
Roland Barthes.
Je dirais que quand on attend quelqu'un dans un café, on est toujours symboliquement dans la position de l'enfant qui attend sa mère, finalement. Mm-hmm. C'est pour ça que le café peut être un lieu à la fois de détresse et de comblement aussi, n'est-ce pas ? Naturellement, tout ça exige des médiations symboliques très nombreuses. Mais en fait, c'est toujours cela. C'est l'affect, finalement, ça se détermine par rapport à la mère, je crois. Et par conséquent, quand on attache beaucoup d'importance à certains réseaux d'amitié, c'est parce que finalement on essaye toujours de reproduire l'utopie de l'espace enfantin en tant que l'enfant joue autour de la mère.
Passons à présent à la lettre C. C comme cœur. Cœur. Ce mot vaut pour toutes sortes de mouvements et de désirs. Mais ce qui est constant, c'est que le cœur se constitue en objet de don, soit méconnu, soit rejeté. Le cœur est l'organe du désir. Le cœur se gonfle, défaille, etc., comme le sexe, tel qu'il est retenu, enchanté, dans le champ de l'imaginaire. Le cœur, c'est ce que je crois donner. Chaque fois que ce don m'est refusé, ce cœur qui me reste sur le cœur, c'est le cœur gros, gros du reflux qui l'a rempli de lui-même. Seul l'amoureux et l'enfant ont le cœur gros. Et voilà que le cœur nous mène au corps.
Corps, toute pensée, tout émoi, tout intérêt, suscité dans le sujet amoureux par le corps aimé. Parfois une idée me prend. Je me mets à scruter longuement le corps aimé, tel le narrateur de Proust devant le sommeil d'Albertine. Scruter veut dire fouiller. Je fouille le corps de l'autre. Comme si je voulais savoir ce qu'il y a dedans, semblable à ces gosses qui démontent un réveil pour savoir ce qu'est le temps. Cette opération se conduit d'une façon froide et étonnée. Je suis calme, attentif. Comme si j'étais devant un insecte étrange dont brusquement je n'ai plus peur. Certaines parties du corps sont particulièrement propres à cette observation. Les cils, les ongles, la naissance des cheveux. Il est évident que je suis alors en train de fétichiser un mort. Je voyais tout de son visage, de son corps froidement, ses cils, la minceur de ses sourcils, de ses lèvres, l'émail de ses yeux, tel grain de beauté. Une façon d'étendre les doigts en fumant, j'étais fascinée. La fascination n'est en somme que l'extrémité du détachement.
Qui est là? Qui lance des cailloux?
C'est moi.
Qui, moi?
Christian. Je voudrais vous parler.
Non, vous parlez trop mal.
De grâce. À notre amour, cela serait fatal.
Non, vous ne m'aimez plus.
M'accusez juste Dieu de n'aimer plus quand j'aime plus.
Tiens, mais c'est mieux.
Passons désormais à la lettre D. D comme déclaration.
L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète que ce cruel marmot prie pour
Barcelonnette.
Barcelonnette.
C'est mieux.
Déclaration, propension du sujet amoureux à entretenir abondamment, avec une émotion contenue, l'être aimé, de son amour, de lui, de soi, d'eux. La déclaration ne porte pas sur l'aveu de l'amour, mais sur la forme, infiniment commentée, de la relation amoureuse. Le langage est une peau, je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. L'émoi vient d'un double contact. D'une part, le discours vient libérer discrètement, indirectement, un signifié unique qui est « je te désire ». et le fait exploser, car le langage jouit de se toucher lui-même. D'autre part, j'enroule l'autre dans mes mots. Je le caresse, je le frôle, j'entretiens ce frôlage, je me dépense à faire durer le commentaire auquel je soumets la relation. Parler amoureusement, c'est dépenser sans terme, sans crise, c'est pratiquer un rapport sans orgasme. Il existe peut-être une forme littéraire de ce coitus reservatus, c'est le marivaudage. Et voici encore D comme...
démon. Il semble parfois au sujet amoureux qu'il est possédé par un démon de langage qui le pousse à se blesser lui-même et à s'expulser du paradis, selon un mot de Goethe. Une force précise entraîne mon langage vers le mal que je peux me faire à moi-même. Le régime moteur de mon discours, c'est la roue libre. Le langage fait boule, sans aucune pensée tactique de la réalité. Je cherche à me faire mal, je m'expulse moi-même de mon paradis, m'afférant à susciter en moi les images de jalousie, d'abandon, d'humiliation qui peuvent me blesser. Et la blessure ouverte, je l'entretiens, je l'alimente avec d'autres images, jusqu'à ce qu'une autre blessure vienne faire diversion. Car le démon est pluriel. Lorsqu'un démon est repoussé, lorsque je lui ai enfin imposé silence, par hasard ou par lutte, un autre lève la tête à côté et se met à parler. La vie démoniaque d'un amoureux est semblable à la surface d'un volcan. De grosses bulles brûlantes et boueuses crèvent l'une après l'autre. Quand l'une retombe et s'apaise, une autre plus loin se forme, se gonfle. Les bulles, désespoir, jalousie, exclusion, désir, frayeur de perdre la face, le plus méchant des démons, font ploc. L'une après l'autre, dans un ordre indéterminé, le désordre même de la nature. Ainsi, je croyais être enfin sorti de la crise, et voilà que je ne cesse de m'agiter dans la pensée, le désir, le regret, l'agression de l'autre, et j'ajoute à ces blessures le découragement d'avoir constaté que je rechute. Non, ce n'est pas une rechute, ce n'est qu'un dernier soubresaut du démon intérieur.
Je vous retrouve.
Adèle, il ne faut pas rester ici. Vous n'avez rien à faire dans ce pays.
J'irai où vous voudrez, mon amour. Je suis prête à vous obéir en tout. Vous savez que je vous appartiens, que vous pouvez faire de moi ce qu'il vous plaira. Oh, je vous aime tant.
Adèle, vous avez dit que vous allez m'obéir. Eh bien, je vous demande de retourner à Guernsey.
Vous ne m'aimez plus. Alors je ne vous demande qu'une chose. Même si vous ne m'aimez pas, laissez-moi vous aimer. Oh oui, laissez-moi vous aimer.
Et enfin, D comme drame, ou l'essence même du discours amoureux. Nous voici à mi-chemin dans le livre. Comme une étape cruciale, Roland Barthes dit l'impossibilité d'écrire une histoire d'amour, puisque celle-ci s'origine dans un événement antérieur, le ravissement, sorte de scène primitive inlassablement répétée. Si tout a déjà été dit, le voici donc confronté à l'indicible de l'amour. Drame. Le sujet amoureux ne peut écrire lui-même son roman d'amour. Seule une forme très archaïque pourrait recueillir l'événement qu'il déclame sans pouvoir le raconter. Dans les lettres qu'il envoie à son ami, Werther raconte en même temps les événements de sa vie et les effets de sa passion. Mais c'est la littérature qui commande ce mélange, car si, moi, je tiens un journal, on peut douter que ce journal relate à proprement parler des événements. Les événements de la vie amoureuse sont si futiles qu'ils n'accèdent à l'écriture qu'à travers un immense effort. On se décourage d'écrire, ce qui, en s'écrivant, dénonce sa propre platitude. J'ai rencontré X en compagnie de Y, qui était de mauvaise humeur. Qui reconnaîtrait là une histoire ? L'événement, infime, n'existe qu'à travers son retentissement, énorme. Journal de mes retentissements, de mes blessures, de mes joies, de mes interprétations, de mes raisons, de mes velléités. Qui y comprendrait quelque chose ? Seul l'autre pourrait écrire mon roman. Comme récit, roman, passion, l'amour est une histoire qui s'accomplit au sens sacré. C'est un programme qui doit être parcouru. Pour moi, au contraire, cette histoire a déjà eu lieu, car ce qui est événement, c'est le seul ravissement dont j'ai été l'objet et dont je répète et rate l'après-coup. Le rapt amoureux, pur moment hypnotique, a lieu avant le discours et derrière le proscénium de la conscience. L'événement amoureux est d'ordre hiératique. C'est ma propre légende locale, ma petite histoire sainte que je me déclame à moi-même. Et cette déclamation d'un fait accompli, figé, embaumé, est le discours amoureux. Passons à la lettre E, où l'auteur poursuit sa réflexion sur l'indicible.
Écrire. L'heure. Débats et impasses auxquelles donne lieu le désir d'exprimer le sentiment amoureux dans une création, notamment d'écriture. Je ne puis m'écrire. Quel est ce moi qui s'écrirait ? Au fur et à mesure qu'il entrerait dans l'écriture le dégonflerait, le rendrait vain. Il se produirait une dégradation progressive dans laquelle l'image de l'autre serait, elle aussi, peu à peu entraînée. Car écrire sur quelque chose, c'est le périmer. Un dégoût dont la conclusion ne pourrait être que « à quoi bon ?» Ce qui bloque l'écriture amoureuse, c'est l'illusion d'expressivité. Écrivain ou me pensant tel, je continue à me tromper sur les effets du langage. Je ne sais pas que le mot « souffrance » n'exprime aucune souffrance et que l'employé s'est agacé. Il faudrait que quelqu'un m'apprenne qu'on ne peut écrire sans faire le deuil de sa sincérité. Toujours le mythe d'Orphée, ne pas se retourner. Ce que l'écriture demande, et que tout amoureux ne peut lui accorder sans déchirement, c'est de sacrifier un peu de son imaginaire au profit du réel. Tout ce que je pourrais produire au mieux, c'est une écriture de l'imaginaire. Et pour cela, il me faudrait renoncer à l'imaginaire de l'écriture. Le langage de l'imaginaire ne serait rien d'autre que l'utopie du langage. Vouloir écrire l'amour, c'est affronter le gâchis du langage. Cette région d'affolement, où le langage est à la fois trop et trop peu. Excessif, par l'expansion illimitée du moi, par la submersion émotive, et pauvre, par les codes sur quoi l'amour le rabat et l'aplatit. Savoir qu'on n'écrit pas pour l'autre, savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j'aime, savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas, c'est le commencement de l'écriture.
J'aime les mots que pour m'écrire, il vous a fallu prononcer. J'aime les lire et les relire à l'ombre des buissons foncés. J'entends quand je le décachète battre au cœur même du papier vos mots que je lis en cachette à l'ombre des buissons foncés. Je vous suis à la lettre, où vous irez, j'irai et vous réagirez. Je vous suis à la lettre, où vous irez, j'irai et vous réagirez. Vos lettres sont des précipices, où il est si bon de sombrer. Il faut que je vous affranchisse, de vous je suis un peu timbré. Alors j'attends votre retour à l'ombre des buissons foncés. Sans pour autant parler d'amour, il se peut que vous me manquiez. Je vous suis à la lettre, où vous irez, j'irai et vous réagirez. Je vous suis à la lettre, où vous irez, j'irai et vous réagirez. Comme une lettre de rappel, J'aimerais que vous accouriez. Alors j'attends de vos nouvelles. Demain par retour du courrier, je vous suis à la lettre. Où vous irez, j'irai et vous réagirez. Je vous suis à la lettre. Où vous irez, j'irai et vous réagirez. La mélodie de vos mots lus me laisse l'âme démunie, et je voyage à demi nu dans vos lettres quand je les lis.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Et si le commencement de l'écriture était le début de la fin ? Écoutons ce que nous dit Roland Barthes sur la fin de l'amour. Nous sommes toujours à la lettre E. E comme errance. Bien que tout amour soit vécu comme unique, le sujet surprend parfois en lui une sorte de diffusion du désir amoureux. Il comprend alors qu'il est voué à errer jusqu'à la mort, d'amour en amour. Comment finit un amour ? Quoi ? Il finit donc ? En somme, nul, sauf les autres, n'en sait jamais rien. Une sorte d'innocence masque la fin de cette chose conçue, affirmée, vécue selon l'éternité. Quoi que devienne l'objet aimé, qu'il disparaisse ou passe à la région amitié, de toute manière, je ne le vois même pas s'évanouir. L'amour qui est fini s'éloigne dans un autre monde à la façon d'un vaisseau spatial qui cesse de clignoter. L'être aimé résonnait comme un vacarme, le voici tout à coup mat. L'autre ne disparaît jamais quand et comme on s'y attend. Ce phénomène résulte d'une contrainte du discours amoureux. Je ne puis moi-même construire jusqu'au bout mon histoire d'amour. Je n'en suis le poète, le récitant, que pour le commencement. La fin de l'histoire, tout comme ma propre mort, appartient aux autres. À eux d'en écrire le roman, récit extérieur, mythique. Passons à la lettre F. F comme
fou. Le sujet amoureux est traversé par l'idée qu'il est ou devient fou. Je suis fou d'être amoureux. Insensé à mes propres yeux, je connais mon délire. Mais simplement déraisonnable aux yeux d'autrui, à qui je raconte très sagement ma folie. Je n'ai droit qu'à une folie pauvre, incomplète, métaphorique. L'amour me rend comme fou, mais il n'y a en moi aucun sacré. Ma folie, simple déraison, est plate, voire invisible, totalement récupérée par la culture. Elle ne fait pas peur. Depuis 100 ans, la folie littéraire est réputée consister en ceci. Je est un autre. La folie est une expérience de dépersonnalisation. Pour moi, sujet amoureux, c'est tout le contraire. C'est de devenir sujet, de ne pouvoir m'empêcher de l'être, qui me rend fou. Je ne suis pas un autre. C'est ce que je constate avec effroi. Je suis indéfectiblement moi-même. Et c'est en cela que je suis fou.
Attends.
J comme jalousie.
T'es dans la lune, mon amour. T'es dans la lune.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Quand j'attends maman.
Je croyais qu'elle était souffrante.
Oui, mais tu la connais, elle peut jamais s'arrêter. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Le petit est pas malade, Paul ?
Non, je passais par là.
Pourquoi tu devais venir en ville ? C'est pas possible, tu me suis, Paul.
Pourquoi ? Parce que j'aurais des raisons de te suivre ?
Non. Mais si tu continues, je pourrais bien t'en donner.
Définition du littré. Sentiment qui naît dans l'amour et qui est produit par la crainte que la personne aimée ne préfère quelque autre. Comme jaloux, je souffre 4 fois. Parce que je suis jaloux, parce que je me reproche de l'être, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l'autre, parce que je me laisse assujettir à une banalité, je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun. J comme
je t'aime. la figure ne réfère pas à la déclaration d'amour, à l'aveu, mais à la profération répétée du cri d'amour. Passé le premier aveu, « je t'aime » ne veut plus rien dire. Il ne fait que reprendre de façon énigmatique, tant elle paraît vide, l'ancien message, qui peut-être n'est pas passé par ces mots. Je le répète hors de toute pertinence, il sort du langage, il divague. Ou, je t'aime est sans emploi. Ce mot, pas plus que celui d'un enfant, n'est pris sans aucune contrainte sociale. Ce peut être un mot sublime, solennel, léger. Ce peut être un mot érotique, pornographique. C'est un mot socialement baladeur. Quoique dit des milliards de fois, je t'aime est hors dictionnaire. C'est une figure dont la définition ne peut excéder l'intitulé. À quel ordre linguistique appartient donc cet être bizarre, cette feinte de langage? Trop phrasé pour relever de la pulsion, trop crié pour relever de la phrase? On pourrait l'appeler une profération. À la profération, nulle place scientifique. « Je t'aime » ne relève ni de la linguistique, ni de la sémiologie. Son instance, ce à partir de quoi on peut le parler, serait plutôt la musique. À l'instar de ce qui se passe dans le chant, le désir n'est pas refoulé, mais simplement joui. La jouissance ne se dit pas, mais elle parle et elle dit « je t'aime, moi aussi ». Une révolution en somme, non loin de la révolution politique, car dans l'un et l'autre cas, ce que je fantasme, c'est le nouveau absolu.
Terminons notre lecture par la lettre R et l'évocation d'une notion chère à Roland Barthes, ravissement.
Épisode réputé initial au cours duquel le sujet amoureux se trouve ravi, capturé et enchanté par l'image de l'objet aimé. Non populaire, coup de foudre. Non savant, énamoration. La langue, le vocabulaire, a posé depuis longtemps l'équivalence de l'amour et de la guerre. Dans les deux cas, il s'agit de conquérir, de ravir, de capturer, etc. Chaque fois qu'un sujet tombe amoureux, il reconduit un peu du temps archaïque où les hommes devaient enlever les femmes pour assumer l'exogamie. Tout amoureux qui reçoit le coup de foudre a quelque chose d'une Sabine, ou de n'importe laquelle des enlevées célèbres. Descendant de voiture, Werther voit pour la première fois Charlotte, dont il s'éprend, encadrée par la porte de sa maison. Elle coupe des tartines aux enfants. Scène célèbre, souvent commentée. Ainsi, nous aimons d'abord un tableau. Car il faut au coup de foudre le signe même de sa soudaineté, qui me fait irresponsable, soumis à la fatalité, emporté, ravi. Et de tous les arrangements d'objets, c'est le tableau qui semble le mieux se voir pour la première fois. Un rideau se déchire. Ce qui n'avait été encore jamais vu est découvert dans son entier et dès lors dévoré des yeux. Je suis initié. Le tableau consacre l'objet que je vais aimer. Lorsque Werther découvre Charlotte, lorsque le rideau se déchire et que le tableau apparaît, Charlotte est en train de couper du pain. Ce qui me fascine, me ravit, c'est l'image d'un corps en situation, car la posture de travail me garantit en quelque sorte l'innocence de l'image. Plus l'autre est indifférent, plus je suis sûre de le surprendre, comme si pour tomber amoureux, il me fallait accomplir la formalité ancestrale du rapt, à savoir la surprise. Je surprends l'autre, et par là même, il me surprend. Je ne m'attendais pas à le surprendre. Il y a un leurre du temps amoureux. Ce leurre s'appelle roman d'amour. Je crois, comme tout le monde, que le fait amoureux est un épisode, doté d'un commencement, le coup de foudre, et d'une fin. Suicide, abandon, désaffection, voyage, etc. Cependant, la scène initiale au cours de laquelle j'ai été ravie, je ne fais que la restituer. C'est un après-coup. Je reconstruis une image traumatique que je vis au présent, mais que je conjugue au passé. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Le coup de foudre se dit toujours au passé simple, car il est à la fois passé, reconstruit, et simple, ponctuel. C'est, si l'on veut dire, un immédiat antérieur. L'image s'accorde bien à ce leurre temporel. Nette, surprise, encadrée, elle est déjà un souvenir. L'être de la photographie n'est pas de représenter, mais de remémorer. Lorsque je revois la scène du rapt, je crée rétrospectivement un hasard. Cette scène en a la magnificence. Je ne cesse de m'étonner d'avoir eu cette chance, rencontrer ce qui va à mon désir, ou d'avoir pris ce risque énorme, m'asservir d'un coup à une image inconnue. Et toute la scène reconstruite opère comme le montage somptueux d'une ignorance.
Vous dites que personne n'a envie de parler de l'amour si ce n'est pour quelqu'un. Le discours amoureux ne peut pas être un discours théorique.
Voilà, c'est-à-dire ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en réalité, en tout cas, je ne crois pas au fond aux dissertations sur l'amour.
Roland Barthes.
Donc je récuse cette idée qu'on puisse écrire une dissertation générale sur l'amour et qu'en réalité, quand on a envie d'écrire à propos de l'amour, c'est toujours qu'on vise quelqu'un à qui on est lié, plus ou moins consciemment, par un désir amoureux.
C'est ça.
Quelqu'un qui reste, bien sûr, absolument clandestin, dans la plupart des cas.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Claude Nior à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci à vous, Claude Mathieu, de nous avoir accompagnés et à la semaine prochaine.